FM 93. Vous écoutez le 5 heures avec Pierre Blais. Le 5 heures.
Vendredi, sixième journée du mois de novembre de l'année 2020. Avez-vous regardé le speech de Donald Trump hier soir? Pour la première fois, il s'adressait aux gens là, publiquement depuis depuis l'élection, la soirée de mardi. Et à un moment donné, on y a coupé le sifflet. Mais moi, je suis pas impressionné pantoute par ça. Nous autres, couper le sifflet à quelqu'un qui a un micro puis qui dit n'importe quoi, on fait ça à journée longue ici. Bonjour Stéphane. Mais non, il est pas arrivé là quand même. Non, c'est juste plus bonjour Stéphane, c'est un peu de toi qu'on parlait. Ben, je. Ah, blague à part, il s'en vient dans une heure ou à peu près. Ce sera Dupont le matin avec le meilleur de la business, Dupont. Puis ça va être le matin. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Pas si mal quand même comme concept. Hey, comment ça va vous autres ce matin? Vendredi, yes! Les semaines passent vite, je trouve, ces temps-ci. Autant, il y a eu des moments où je les trouvais très, très longues. La suivante, l'action de grâce, terrible, très, très long. Mais là, depuis 2-3 semaines, justement, depuis ce temps-là, là, ça va plutôt bien. Tant mieux, parce qu'on est parti sur le mal bord, comme on dit. Mais c'est relatif, parce que là, on a 2 degrés actuellement à Québec et ce sera 14 en après-midi. On a déjà vu plus de Malbord que ça. L'affaire, c'est que dans quelques jours, là, quand sera terminé ce soubresaut de température, regardez, là, du 12 samedi, 7 dimanche avec la pluie, non, mais pas beaucoup de pluie, mais un petit peu quand même. 11 pour lundi, 17 mardi, 15 mercredi. Mais j'irai pas plus loin parce qu'à partir de jeudi, ça dégringole du 7, du 8, du 9, du 4 degrés. Ben, c'est ça. C'est une tendance à moyen terme et qui va s'estomper quand même relativement rapidement. Alors, profitez-en à partir d'aujourd'hui et pour les 4, 5, 6 prochains jours, là, des températures pas si mal que ça, mais pas si le fun que ça non plus.
Quiet on the set. Can we please have quiet on the set?
Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu.
By reading the paper, they tell me I care about the world now.
Lis la presse!
Remarquez, un week-end de plus à l'extérieur avec les enfants, c'est... Toujours oui. Mais ils prennent ça où, cette énergie-là, les enfants? Je sais pas. Mais nous, les vieilles croûtes de 36 et plus, là, comme moi, là, oh, on a moins de mine dans le crayon un petit peu là, le samedi matin, 5h15, quand ça se lève. Avez-vous des trucs? La couverture lestée, pas pire. Mais il doit y avoir autre chose. 264 à 214, c'est le plus récent score que j'ai du match de basket que se livrent Joe Biden et Donald Trump à l'avantage de Biden. Donc, 264 à 214. Est-ce qu'on aura des résultats supplémentaires aujourd'hui? Peut-être. Honnêtement, on n'est pas à une surprise près là, dans ce dossier-là. Soyons directs et francs. Ceci dit, président Trump, parce qu'il est toujours président, peu importe l'issue du vote, il le sera jusqu'en janvier prochain, la mi-janvier, me semble, ou quelque chose comme ça. Là. Il a pris la parole hier pour la première fois depuis la nuit de l'élection, donc celle de mardi soir. Et je vais vous faire écouter comment ça s'est passé et surtout pratiquement terminé. Parce que Donald Trump a été interrompu par plusieurs réseaux de télé américaines pendant son élocution. On a décidé d'interrompre. Pourquoi? Parce qu'il disait des choses fausses, tout simplement.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. And Ari Melber, don't go far. given that you are our chief legal correspondent. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of.
Alors, il n'y a pas de vote illégal de ce qu'on sait et il n'y a pas de victoire de Donald Trump de ce qu'on sait. Alors, ce que vous avez entendu, là, c'est, ça, c'est les deux dernières phrases que je viens de vous traduire là. Celui qui parle, c'est le chef d'antenne d'MSNBC. Je veux pas, comprenez-vous là que lui l'a fait, puis il y a plusieurs autres antennes qui l'ont fait là. Ils ont coupé le sifflet au président américain pendant son allocution. Je sais pas à quel point c'est inusité dans l'histoire américaine, mais d'après moi, c'est une première. Aïe aïe! Et ce qu'ils disent, ben, c'est que on se trouve encore une fois dans la délicate position de non seulement devoir intervenir pendant l'allocution du président, mais également de corriger ce que le président vient de dire. Wow! C'est pas rien. Ce qui s'est passé hier sur plusieurs réseaux de télé, là, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est pas seulement à MSNBC, c'est quelques réseaux de télé quand même. Bon, ceci dit, on revient au Québec. Maintenant, 1138 nouveaux cas. C'est le plus récent bilan de la pandémie ici, dans la province de Québec. 28 nouveaux décès qui ont été éparpillés, malheureusement, dans les derniers jours également. 538 personnes qui sont hospitalisées à l'heure actuelle. C'est une de moins que lors de la journée précédente. 92 soins intensifs plus 1. Alors, c'est relativement stable côté hospitalisation, que ce soit dans les lits réguliers ou dans les lits aux soins intensifs. Et pour ce qui est du nombre de prélèvements, 27 326. En passant, juste avant de continuer, 25-226, c'est tout à fait possible de me contacter pendant l'émission. Mais il y a moi, il y a Pascal, il y a Ray, il y a Stéphane aussi. Donc, pour les 5 prochaines heures ou à peu près, disons 4 prochaines heures et demie, là, parce que la dernière demi-heure, on est lousse. Vous pouvez nous contacter au 25-226 de façon très, très facile. Puis déjà là à 5h07 ce matin, si vous êtes là, n'hésitez pas, un petit coucou. Pas vous êtes des coucous, là, excusez, ça serait très, très, très insultant. Non, juste de faire un petit coucou par texto. Toujours plaisant de vous lire et de vous savoir au rendez-vous. François Legault, maintenant, se dit ouvert à permettre les rencontres individuelles en zone rouge. Il dit que c'est un équilibre difficile à trouver entre sauver des vies et la qualité de vie. Il l'a dit combien de fois, ça, dans les dernières semaines? Plusieurs. Le premier ministre du Québec a aussi demandé à la santé publique s'il était possible de permettre donc des assouplissements pour des rencontres individuelles, une personne à la fois. À l'heure actuelle, toutefois, selon lui, il n'est toujours pas de bonne alloi, une bonne idée d'ouvrir les gyms, les restaurants et les salles de spectacle, tout comme les lieux culturels, puisque ce sont tous de potentiels lieux de rassemblement. L'opposition, c'est leur game depuis quelques jours, quelques semaines. Ils demandent davantage de transparence de la part du gouvernement. On y reviendra un peu plus tard. Cette demande de transparence-là, elle vient un peu d'être relancée en ce sens que la santé publique de Montréal veut des allègements en zone rouge. L'affaire, c'est que cet avis-là, là, l'avis écrit de la santé publique de Montréal, il a coulé dans les médias, ça ne devait pas se retrouver là. Mais ce qu'on dit, c'est que la docteure Mylène Drouin, qui est la directrice de régionale de santé publique à Montréal, considère que le confinement actuel a des effets négatifs majeurs sur la santé physique et mentale des individus qui maintiennent des activités fermées. Bon, c'est rien de nouveau là-dedans. On parle que les salles de sport, les lieux culturels, en plus de pouvoir se réunir avec un nombre limité de personnes, ça pourrait permettre tous ces quelques allègements-là de donner un lousse à un peu tout le monde. C'est vrai, là, dans le fond, c'est totalement vrai. L'affaire, c'est que à la fin octobre, donc quelques jours à peine, un document qui s'intitule « Recommandations pour ajuster les mesures du palier rouge à Montréal, contrôler la transmission de la COVID-19 et prendre en compte les effets collatéraux ». Ça, c'est un titre en 6 lignes ou à peu près. Et ce document-là, ben, il a fuité dans les médias. Et c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que la santé publique de Montréal propose aussi de rouvrir les terrasses des restaurants, de tout ça dans le but d'offrir une vision à long terme aux Montréalais et un environnement plus stable. Bon, toutes ces mesures-là, c'est bien intéressant. Vous dites que l'hiver arrive, les terrasses, ben ça serait propre aux restaurateurs, est-ce qu'on les chauffe, etc. L'affaire, c'est que le gouvernement n'est pas tout à fait content de la
des différentes directions que prennent le message actuellement. Parce que si un document comme celui-là coule, parce que c'était strictement réservé à l'interne, c'était pas Mylène Drouin qui disait, hey, les journalistes, regardez, c'est ça nos recommandations, là. Ça faisait partie des discussions un peu plus privées, disons ça comme ça. Ben, les discussions ne sont plus tout à fait privées pour le moment. Et là, ben, c'est ça. Ça sème un peu la confusion, soyons honnêtes. C'est la partie du gouvernement, ça, c'est leur vision. Puis la vision du citoyen, c'est on veut un peu plus de lousse. Puis savez-vous quoi? Ça se défend très bien. Maudite pandémie, pareil. Excusez, là, on le réalise à chaque fois. Maudite pandémie à marde. Ça, c'est la partie rigueur de l'émission. La réserve provinciale de N95, qui est seulement à 40% de l'objectif, c'est le ministre de la Santé qui assurait il n'y a pas si longtemps que l'approvisionnement ne serait pas un problème en général. Et c'est le cas, hein, d'ailleurs, parce que pour ce qui est des blouses, des masques, des visières, il n'y a pas de problème. Là, on est au-delà des objectifs ou à peu près dans toutes les catégories. Mais pour ce qui est des masques N95, ça, c'est plus difficile de s'en procurer, semble-t-il. Des règles assouplies dans les CPE et les garderies. Concrètement, ce qu'on veut, c'est davantage de contacts entre les jeunes enfants qui pourraient être autorisés de façon un peu plus officielle. Donc, en début et en fin de journée, lorsqu'on va accueillir et laisser partir les enfants, deux groupes pourront être mélangés. Alors ça, c'est quand même idéalement jusqu'à un maximum de 15 enfants, puis pas trop longtemps, mais ça fait quand même une bonne différence dans l'organisation du travail du côté des CPE. L'entrée des parents dans les locaux n'était pas recommandée jusqu'à maintenant, mais là, ce sera permis. Remarquez que j'ai pas vu, en tout cas, mon CPE, on pouvait entrer chercher les enfants lorsqu'on est masqué, là, selon les nouvelles règles normales, disons ça comme ça. L'usine Olimel de Princeville, maintenant 73 travailleurs de l'usine qui ont été infectés. C'est le plus récent bilan qu'on a. Et dernier truc au sujet de la COVID, j'ai quand même d'autres actualités à vous livrer, là, mais pas de fête privée dans un garage. Je vous en parle, ça se passe à Montréal, mais si vous avez l'occasion de voir les photos de ce party privé-là qui est en train de s'organiser, on parle de probablement un mariage qui aurait réuni à peu près 200 personnes. On dit qu'il y avait 200 chaises au minimum, là. Et voyez les images. C'est sur le site du Journal de Montréal. Excellent travail d'enquête de la part du Journal de Montréal. C'est renversant de voir à quel point il y a des gens qui pensaient pouvoir s'en sortir. Organiser un mariage de 200 personnes d'un sous-sol, ou pas d'un sous-sol, dans un stationnement souterrain, pardon. Audacieux quand même, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Le nom des victimes. Je verrai avec Pascal tout à l'heure là, au sujet de la tuerie dans le Vieux-Québec un petit peu plus tard. Je ne suis pas encore certain de ce que je veux faire avec ça. Trudeau et Macron se sont parlé, eux, les deux dirigeants qui... il y avait cette histoire de liberté d'expression. Macron qui semblait en froid avec Justin Trudeau. Finalement, les deux se sont parlé à la demande de Justin Trudeau. Je vous épargne les détails. C'est d'une aridité spectaculaire. Le BAP a remis son rapport sur le tramway. Maintenant, c'est au ministère des Transports du Québec et surtout au ministère de l'Environnement et le ministre Benoît Charest, de se pencher là-dessus de façon un peu plus précise. On devrait en savoir davantage quelque part autour du 20 novembre. Et Augustinois, Augustinoise, concitoyens, concitoyennes, je vous annonce que peu importe la version qui sera retenue au conseil municipal, le pire scénario pour les prochaines années, c'est un gel de taxes, et le meilleur scénario, c'est une baisse du compte de taxes. Là, vous vous dites, comment ça se fait-il? C'est parce qu'au cours des 6 dernières années, notre compte de taxes avec les hausses récurrentes et ce qui s'applique à l'année précédente et tout ça, je vous dis que dans les 6 dernières années, notre compte de taxes, Augustinois et Augustinoise, a augmenté de près de 50 % en 6 ans.
Je suis pas un athlète. Moi, je suis un baseballeur.
C'est...
Yes! Oui!
Saint-Augustin est là où il fait bon vivre. Oh, on est bien. Ça coûte cher, là. On est bien. 22 décembre pour le début de la saison de l'NBA, ça a été approuvé par les joueurs. Probablement quelques détails qui restent à régler, mais ça s'enligne pas mal. Pour ça, 34-17, la victoire des Packers sur les 49ers de San Francisco. C'était le match du jeudi soir dans la NFL. Les Raiders de Los Angeles ne sont pas assez à cheval sur les protocoles de COVID et sanitaires. Résultat, amende, plusieurs centaines de milliers de dollars, mais surtout, on leur retire un choix au prochain repêchage. Non, c'est un choix de 6e ronde, c'est pas la fin du monde, mais quand même, il faut qu'on se remette les idées en place du côté des Raiders, dit la NFL. Alex Ovechkin veut jouer quoi encore? 2, 3, 4, peut-être 5 ans dans la LNH. Ensuite, aller jouer une dernière saison, au moins, avec Moscou, dans la KHL, le Dynamo de Moscou. C'est son plan de carrière. Je vous rappelle que la prochaine saison sera la dernière de son contrat de 13 ans et 124 millions de dollars. avec les Caps de Washington. Et tennis en terminant, Milos Raonic poursuit sa route au tournoi de Paris. Il atteint les quarts de finale. Pour ce qui est de Félix Auger-Aliassime, ben lui, ça s'est terminé très tôt. Puis il a annoncé au cours des dernières heures qu'il rompait ses liens avec son entraîneur de longue date, d'ailleurs, Guillaume Marx.
Salut, ici Steph Dupont.
Je repasse ma chemise,
puis je m'en viens. Je vais être là vers 6h, 6h et quelques, puis en attendant, c'est Pierre Blais qui est là pour le 5h. Fait que Pierre, force-toi donc un peu.
Vous avez un immeuble à revenu à vendre? Peu importe s'il a besoin de réno ou non, il l'achète rapidement chez Airfortin.com. Un terrain, une maison, un immeuble qui a besoin de réno ou non, à vendre dans la région de Québec, Airfortin.com est votre acheteur. Airfortin.com.
La retraite, ça peut être long. Être au chômage, c'est pas drôle. Travailler à temps partiel, c'est pas pour tout le monde. Mais fabriquer des composantes de transmission de la puissance qui pourraient se retrouver dans n'importe quel pick-up, ça c'est hot. Ben ça pourrait être ton travail chez Fonderie Poitras. Ton salaire jusqu'à 21,25 $ de l'heure. Un poste permanent, temps plein, avantages concurrentiels, prime de quart, formation fournie. Envoie ton CV sur fonderiepoitras.com.
Au FM 93, vous écoutez le 5 heures avec Pierre Blais.
Déjà de retour. Et oui, 5h16 minutes, on est déjà là pour se présenter quelques extraits du point de presse d'hier après-midi du gouvernement du Québec au sujet de la COVID. On y reviendra dans un instant, le temps de se parler de météo, parce que cet après-midi, ben, sortez les lunettes fumées, les bermudas, les slounes, la chaise longue, la crème solaire, 14! Hey, quelques nuages, là, mais quand même, 14 degrés cet après-midi, ta boy, toi, ce soir, 11, pourquoi pas. Demain, samedi, c'est là que ça compte le plus, 12 degrés, une journée semblable à celle d'aujourd'hui, un petit peu moins chaud, mais quand même très agréable. Dimanche 7, avec des probabilités d'averse qui augmentent, mais de façon minime pour l'instant. 11, lundi 17, mardi 15, mercredi. C'est une tendance donc à moyen terme. On l'espère, on croise les doigts pour que ça demeure ainsi. Alors voilà, à l'instant, on va écouter quelques extraits du point de presse d'hier. Bon, commençons avec cette histoire de document qui a coulé. Il arrive de la Direction de santé publique de Montréal. C'est la docteure Mylène Drouin qui recommandait certains assouplissements au sujet des restaurants, des gyms, des rencontres également en général, des rassemblements. La question est très simple. Est-ce que le gouvernement va suivre, M. Legault?
Je veux revenir maintenant sur les propositions qui sont faites par différentes personnes, incluant la santé publique de Montréal pour demander des assouplissements à nos restrictions. D'abord, rappelons qu'aujourd'hui, ou hier, si on veut, là, les données qu'on a publiées aujourd'hui, qui étaient pour hier, montrent quand même 261 nouveaux cas à Montréal. Donc, la bataille n'est pas gagnée à Montréal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la façon de fonctionner, il faut comprendre que la santé publique de chaque région fait ses recommandations au directeur national de la santé publique et ensuite, le directeur de la santé publique vient nous présenter ses recommandations et on en débat, mais c'est important de le rappeler, là, c'est le gouvernement en bout de ligne qui prend la décision. J'ai demandé à mon équipe de regarder la possibilité peut-être d'un assouplissement qui serait plus pour des rencontres individuelles. Est-ce que un jeune peut rencontrer un autre jeune, ou peu importe l'âge, là, est-ce qu'il pourrait y avoir des rencontres, mais une personne à la fois? Par contre, je veux répéter que pour l'instant, on pense pas que c'est une bonne idée d'ouvrir les restaurants, les gyms, les salles de spectacle, parce que ce sont des opportunités de rassemblement puis d'infection de plusieurs personnes à la fois.
Alors, bon, ben peut-être un peu d'assouplissement, mais rien à grande échelle. C'est ce qu'on comprend de la déclaration de François Legault. Ceci dit, le coulage de documents comme celui-là en temps de pandémie, quand le gouvernement tente de lancer un message clair, un message unique, en communication, si c'est pas ça, là, si ton message est pas clair puis il est pas unique, t'es dans le trouble. Ben, le message lancé par Madame Drouin à Montréal, c'est un espèce de caillou dans le soulier. Encore une fois, je vous le répète, là. Pas sorti dans la rue puis à dire, hey, les journalistes, regardez, j'ai un rapport puis c'est ça que je recommande puis prenez-le. Ça a coulé. T'es pas supposé couler. Est-ce que ce caillou-là, volontairement placé dans le soulier de la, par la santé publique de Montréal, clairement pas, là? Ben, en tout cas, je peux pas croire que. Et si oui, ben la santé publique qui commence de Montréal qui commence à scorer dans le goal du gouvernement, d'accord ou pas d'accord, c'est pas tout à fait productif là. Pourquoi c'est rendu là? Non, ça n'a pas de bon sens. Ceci dit, quelle est la perception de la population qui voit une recommandation comme celle-là, mais qui n'est pas suivie? Est-ce que vous allez l'entendre dans la question, là, coudonc, est-ce qu'on prend les décisions sur un coin de table? Ce sont des c'est le genre de cynisme là, qui apparaît dans la population quand on voit ce genre de document-là couler, puis. C'est l'appel à l'unité de la part du gouvernement dans les décisions. Enfin, je vous laisse écouter la question.
De voir qu'un document qui coule comme ça, ça vient, d'une certaine façon, renforcer l'idée que plusieurs se font maintenant, là, que vos décisions sont prises sur un coin de table.
Bien, deux choses, là. D'abord, je pense que les Québécois sont assez intelligents pour savoir qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Donc, il peut y avoir plusieurs opinions dans plusieurs régions du Québec. Bon, c'est certain que ça amène une certaine confusion. C'est pas idéal comme situation. Donc, je pense que c'est important que les discussions deviennent pas des possibilités de modifier des mesures parce que, bon, on a des débats à tous les jours sur les possibilités de modifier des mesures. Mais quand on modifie des mesures, on les annonce qu'on modifie les mesures. Quand on y pense, ben là, on vient pas mélanger tout le monde à penser à voix haute, là.
C'est sûr que la question est dure un peu, là. Vos décisions sur un coin de table, pas sûr que ça se prend sur un coin de table non plus, là. C'est un petit peu présomptueux comme question, mais c'est correct, là. C'est, tu piques puis t'essayes d'en avoir un petit peu plus. Parce que, tu sais, à un moment donné, on sait tous que le gouvernement, il se lève le matin puis les gens qui sont là autour de la table, là, que ce soit le gouvernement ou la santé publique, la question, c'est pas comment on ferait pour continuer à limiter le plus possible les gens parce qu'on veut les limiter. C'est comment on les limite dans la mesure où on veut contrôler la pandémie et dans l'idée d'éventuellement réouvrir le plus de choses, rouvrir le chose de plus possible, tu sais. Je peux pas croire qu'on pense autrement, là. Je veux pas être cynique à ce point-là. En tout cas, j'espère que vous êtes pas cynique à ce point-là. Sinon, ça doit être plate de se lever le matin, là. En tout cas, on comprend un peu que tout le monde au Québec pense à voix haute, que le PM semble un peu irrité par moment, puis on peut, tu sais, il contient relativement bien, là. Il est pas acrimonieux, là, le premier ministre dans son ton. Mais imaginez, le répéter ces messages-là, un message très, très, très semblable, tous les jours, depuis mars dernier, jamais de bonnes nouvelles ou presque à annoncer. À un moment donné, je sais pas, moi, j'aurais peut-être pitché un cahier ou quelque chose. Là, y a-tu moyen que... Ah non, François Legault, il se contient, c'est correct. Quelques questions à rafale en terminant. Excusez, on est tous tannés de cette pandémie-là, puis à un moment donné, on pogne toute notre cote, comme on dit. Bon, mon cote sur l'humain, des fois, pas très loin. OK, quelques questions à rafale, on y revient là. Immunité collective, est-ce qu'on y pense encore ou pas du tout?
On en est rendu où? Est-ce que c'est des paramètres que vous continuez à suivre ou si on a complètement écarté ça?
Bien, c'est-à-dire que ça va se faire encore par des études de séroprévalence. Vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement la priorité actuellement parce que, effectivement, ce qu'on suspecte, premièrement, c'est que les taux ne seront jamais à des niveaux très élevés pour empêcher la circulation du virus. Ça, c'est la première des affaires. On ne passera pas de 3 ou 5 à 85 % là, à moins d'avoir tout le monde attrape la maladie, mais on a avec les conséquences que ça veut dire. L'autre élément aussi, c'est qu'on se rend compte que l'immunité pourrait ne pas perdurer. Il y a des cas de réinfection au-delà de 6 mois là, qui pourraient être le fait. Ça, c'est un enjeu comme tel. Fait que je vous dirais pas qu'on va continuer. Il va y avoir des études de séroprévalence, c'est clair. Elles vont continuer à se faire. Mais disons que c'est pas là-dessus qu'on capitalise. Malheureusement, là, c'est autour d'un traitement ou d'un vaccin que la solution est.
Bon, mais justement, le vaccin, quelle sera la stratégie d'acquisition, M. Arruda?
C'est sûr qu'on a déjà pris des engagements avec le gouvernement fédéral, parce que c'est le gouvernement fédéral qui a quand même la chance puis la responsabilité de discuter avec les grandes sociétés pharmaceutiques. Et c'est ce qu'on s'est assuré d'avoir plus que notre part au cours des prochains mois. Puis, en fait, ce qu'on fait et ce que le gouvernement fédéral fait, si je l'explique globalement, c'est d'essayer de signer avec le plus d'entreprises possibles parce qu'on ne sait jamais finalement qui va être le premier gagnant. Alors, il y a plusieurs ententes qui ont été signées du fédéral avec les fournisseurs et entre le fédéral et nous pour s'assurer qu'on a notre part de ça.
Comme ça a été fait dans le H1N1, là, dans le Fonds de Canada, s'organise pour avoir des pré-contrats avec des compagnies, donc d'avoir accès à du vaccin qui va être réservé en terre canadienne. Puis en termes de fédéral, provincial, territorial, mes homologues et moi, on regarde la situation, puis habituellement, il y a une distribution qui est juste et équitable en fonction des indications, puis etc. Fait que, je vais vous dire, ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas un vaccin qui arriverait, par exemple, aux États-Unis quelques semaines avant ou etc., mais on a déjà prévu, puis avec plusieurs compagnies.
Hey, j'ai un pré-contrat, c'est-tu... Excusez, me suis emporté un peu. Un pré-contrat avec des compagnies. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu as des ententes avec plusieurs compagnies, puis tu te croises les doigts que ce soit ces compagnies-là qui trouvent le vaccin en premier. OK. En terminant, l'intéressante question, des importantes questions de la LHJMQ qui veut créer une bulle avec les équipes qui sont en zone rouge actuellement pour tenir un tournoi. Monsieur Arruda, où en sommes-nous?
Les discussions sont en cours. On avait des équipes de santé publique. Là, mon équipe avait des préoccupations particulières, notamment en lien avec certains protocoles de bulle, et c'est en train d'être discuté actuellement. On comprend que les échéanciers, c'est rapide. C'est le 12 novembre. Et on est en pleine discussion là-dessus. Je peux pas commenter de la décision finale.
Bon, alors ça s'en vient, mais quand même, on comprend que l'échéance est assez rapprochée. Alors voilà, ça fait le tour de ce qu'on avait à savoir au sujet du point de presse du jour hier. François Legault, Dr Arruda, Christian Dubé. Ben non, pas de lousse appréhendée malheureusement, ou à peu près pas. Peut-être des rencontres un à un. Remarquez que, tu sais, pour être un peu plus en paix avec soi-même, puis de se réunir pour aller, je sais pas, marcher avec quelqu'un, mais de se dire, ben... T'as pas trop peur de pogner l'étiquette de 1000. Je peux pas croire qu'on avait peur de pogner l'étiquette de 1000$ en allant marcher avec quelqu'un, mais là, ça devait être comme ça. Maudite pandémie.
Le 5 heures avec Pierre Blais.
Vrai de vrai.
De retour après la pause.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Boreas Technologies est la lauréate Startup RBC Banque Royale du 40e concours Les Mercuriades, le plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Fondée en 2016, la compagnie développe et commercialise des circuits intégrés à haut voltage et à faible consommation d'énergie qui ajoutent des composantes tactiles à une grande variété d'applications.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Syneos Health offre un environnement sécuritaire tant pour ses participants que pour ses employés. En période de pandémie, nos installations ont été réaménagées en conséquence et des mesures de prévention additionnelles sont mises en place à chacune des étapes de nos études. Alors si vous êtes un homme ou une femme âgé entre 18 et 55 ans, nous sommes à la recherche de participants en bonne santé, non-fumeurs ou fumeurs légers, pour une étude clinique concernant un médicament en développement pour le soulagement des symptômes associés avec les allergies saisonnières. Faites comme des milliers de personnes et participez à une étude clinique chez Syneos Health. Recevez jusqu'à 3 500 $ pour votre participation. Inscrivez-vous à gosyneos.com ou appelez au 418-527-3476.
Syneos Health. Pour un futur en santé.
93.
Amateurs de musique country, le dimanche 8 novembre, voyez Femmes de Country diffusée sur la plateforme Youp. En direct de la Place des Arts, Manon Bédard, Annie Blanchard et Cindy Bédard, entourées de leurs musiciens, vous offriront des chansons de leur répertoire et les plus beaux classiques du country. Gagnez votre laissez-passer virtuel grâce au 93 en visitant la section concours du fm93.com. Vivez cet événement unique. Femmes de Country, un seul soir, dimanche 8 novembre dès 19h. Tous les détails au yoop.app.
Au FM 93, vous écoutez le 5 heures avec Pierre Blais.
Ouais, ben ça donne le goût d'écouter Le Seigneur est dans le moteur, tout ça, hein? Hey, peut-être plus tard, on l'a jamais bien loin, cet excellent succès. Le Seigneur est dans le moteur. Merci d'être là. Vous êtes plusieurs à avoir levé la main au 25-226. Je vous ai tous lus, tous appréciés, ou presque. Presque. À quelques exceptions près, mais non. Je vous ai tous lus. Tous lus. Et c'est le fun de vous savoir au rendez-vous, non seulement ce matin, mais à tous les matins. Il y a plusieurs numéros, plusieurs identifiants qui reviennent là, matin après matin. Des gens qui nous en poussent des pas pires. Genre Alex de Granby qui m'a sorti une quote des boys ce matin. J'adore ça quand ça arrive. Moi, de prendre un club, pas de tomates, pas de salade, puis pas de bacon non plus. Ça, mon petit caisse, ça s'appelle une sandwich au poulet. Dans les boys numéro 1, Tiggy qui commande un club à la brasserie chez Stan. L'as-tu trop écouté ce film-là, vous pensez? On a 3 degrés actuellement à Québec, ce sera 14 cet après-midi, 12 pour demain, 7 pour dimanche, 11 lundi, 17 mardi, 15 mercredi. Une tendance relativement élevée à la météo. Pascal, comment vas-tu? Non, ça peut. Là, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Pierre.
C'est ma faute, désolé. Mais oui, non. Ça va bien, vendredi. Et puis, vendredi, c'est toujours oui. Ah, c'est bon, ça.
Un bon slogan, encore une fois.
C'est un peu impliquant si jamais il y a quelqu'un qui décide de l'utiliser à mauvais escient.
Oui, oui, effectivement.
Vendredi, c'est toujours oui.
Mais sans oui, c'est toujours non.
Ah, c'est bon. C'est bon.
Je pense qu'on peut coller les deux, puis on vient de se dédouaner sur ce qui peut, sur ce qu'on ne souhaite pas qu'il arrive.
Ou vendredi, c'est souvent oui aussi, ferait l'affaire, là, si on voulait pas s'alourdir. Mais quand même, OK. Non, mais c'est le fun, les vendredis. Moi, j'aime bien ça, parce que demain, on se lève pas, puis après-demain, on se lève pas. Puis moi, pas me lever dans la vie, là. Oh! Que ça fait partie de mes activités préférées.
Mais avec des enfants?
Non, mais je peux bien me lever à 6h15 le samedi puis le dimanche. Là. 6h15, c'est grasse matinée. Moi, c'est fantastique de se lever à 6h15. Tu sais, quand tu te lèves à 3h15 la semaine, moi, 3h de plus, il n'y en a pas de problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les enfants, à partir de 6h. Aucun problème.
Télé, comique, céréales sucrées.
Ouais, ça, c'est l'autre bout, c'est hot. Là, parce qu'avec des 6 puis des 5, 6, 7 ans, là, ça ouvre la TV tout seul le samedi matin. Puis ça sait que sur Netflix, la dernière saison de Des œufs verts au jambon a peut-être des nouveaux épisodes. Fait que là, faut aller voir Des œufs verts au jambon.
Des œufs verts au jambon, c'est la nouvelle émission pour enfants, ça?
C'est peut-être pas nouveau. C'est peut-être pas la nouvelle émission pour enfants. Mais en tout cas, chez nous, Les œufs verts au jambon, ça pogne.
Oh là là, je connais pas ça. OK. Ah ben,
écoute, c'est bon, là. Pascal, tu trouverais tellement ton compte. Là.
C'est un peu comme Emoji Vendredi, la chanson.
Arc. Bon, tu veux te parler de nouvelles?
On va parler de nouvelles.
Tant qu'à dire des niaiseries.
On est meilleur là-dedans.
Hey, on est très bon pour dire des niaiseries, excuse-moi, par
t'as
exemple.
T'as raison, faut pas sous-estimer.
Non.
Hey, je commence avec, c'est rare là, qu'on y va avec l'international, mais là, c'est Donald Trump qui fait jaser, ça n'a aucun sens depuis hier soir. Vraiment, là, on le pointe du doigt parce qu'il fait un discours perturbant pour plusieurs, tellement qu'il y a plusieurs réseaux de télévision qui ont coupé le sifflet. Puis j'ai trouvé ça très, très drôle ce matin quand tu as dit, nous autres, on est habitués avec le matin de fermer les micros puis d'arrêter la diffusion si jamais il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi.
Ça arrive tous les jours, nous.
Mais c'est arrivé hier aux États-Unis, puis c'est à se demander, c'est-tu la première fois dans l'histoire? Moi, je pense que oui, il n'y a jamais un président qui s'est fait...
Moi, j'ai pas souvenir de ça. De toute façon, c'est définitivement le président le plus acrimonieux de tous les présidents.
Oui, ça, on en convient. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous entends demander ça dans votre voiture ou dans votre maison. Mm-hmm. C'est qu'en gros, Donald Trump a affirmé qu'il y a certains groupes très puissants qui est en train de lui voler l'élection, que ce soit, par exemple, des médias ou encore des gens extrêmement riches ou... En gros, il pense qu'il y a des votes qui sont illégaux et que ça pourrait lui coûter la victoire. Parce que si on calculait seulement les votes légaux, il gagnerait. Il aurait déjà gagné. C'est ce qu'il a dit. Et on parle ici de désinformation du côté de plusieurs analystes et plusieurs personnes qui sont bien pris dans la politique américaine. Mm-hmm. Ça a vraiment fait jaser et ça en fait encore jaser. Ce matin.
Écoute, de voir un président américain être interrompu sur plusieurs réseaux télé, notamment un où le lead anchor, là, comme on dit ça, le chef d'antenne, intervient puis dit excusez, là, on s'interpose, puis c'est pas habituel, mais là, il faut qu'on non seulement on arrête le président, mais qu'on corrige le président. Bon, honnêtement, ça aurait pu se faire après aussi, là. Il y a une partie spectacle là-dedans de la part des réseaux américains, clairement, qui s'opposent au président. Ça m'apparaît tout à fait clair. Ceci dit, est-ce que ça permet au président de dire n'importe quoi? Pas nécessairement non plus, là. C'est juste que ça avait l'air de la lutte hier, là. Tu sais, c'est les réseaux télé qui interrompent le président. Je sais pas. Moi, je pense qu'il aurait dû le laisser finir. Aussi niaiseux ce qu'ils disent puisse être. Il aurait dû le laisser finir puis ensuite faire la correction, je crois. Là. C'est parce que ça devient trop un spectacle à un moment donné. Là.
Oui,
mais ça, c'est une opinion très personnelle dans laquelle je ne t'implique pas, Pascal.
Non, c'est correct. Mais écoute, hier, j'essayais de regarder un petit peu là, comment les élections se passaient. Notamment, on veut savoir ce qui va se passer en Géorgie, mais ça avance à pas de tortue. C'est ouais. Capoté. Là. J'ai envoyé une image à Ray hier. Là. C'est un petit chien qui fait deux petits pas. On entend ses petites griffes, puis il recule un petit peu. Puis il avance un petit peu, puis il recule un petit peu. Hey, ce matin, c'était ex aequo, là. Ça n'avance pas en Géorgie. Mais écoute, Twitter s'enflammait quand même puis discutait justement de cette élection-là qui passe ouais. à l'histoire. Et je vais te dire quand même, il y a une autre chose à souligner qui est en relation avec la présidentielle. À Philadelphie, en Pennsylvanie, la police a arrêté deux hommes pour avoir appris qu'il y a une attaque armée qui se préparait contre un centre de dépouillement des bulletins de vote.
Ah, ouais.
Et là, ce qu'on nous dit dans le Philadelphia Inquirer, les policiers sont intervenus en soirée, ils ont reçu une information comme quoi il y a un véhicule Hummer de la Virginie avec des personnes armées de AR-15 qui étaient à bord et qui se dirigeaient vers le Convention Center. Alors, opération policière assez importante du côté de la Pennsylvanie. Rien encore qui nous dit que c'est effectivement le dessein de ces gens-là, là. Mais ça reste à souligner ce matin. On espère qu'il n'y aura pas de ce type de tension-là là, suite à la présidentielle américaine.
Mais effectivement, c'est vrai que le climat est relativement tendu. Hein?
Mm-hmm, vraiment. Au Québec maintenant, on rapportait hier 1138 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, 28 décès supplémentaires. Dans la capitale nationale, on recensait 80 nouvelles infections et 52 en Chaudière-Appalaches. Je passe au judiciaire maintenant parce que c'était le retour de ce présumé tueur en cours hier, ce présumé tueur de l'attaque meurtrière du Vieux-Québec. Ce qu'on dit, en gros, ce qui ressort, c'est qu'il est trop tôt pour faire un lien direct entre l'attaque et les troubles de santé mentale dont pourrait souffrir l'accusé. C'est la Couronne qui a parlé de ça. Il y a Maître François Godin, qui est procureur au DPCP, qui a servi un avertissement à quiconque qui voudrait faire ce raccourci-là. Il dit « c'est pas le temps ». Le dossier a été remis au 20 novembre prochain. Ça, c'est la Couronne qui a demandé ça pour permettre aux enquêteurs de compléter la preuve contre cet homme-là.
Ouais.
Toujours au Palais de justice de Québec, mm-hmm. deux autres histoires. Danny Savard Bonneau, 32 ans. C'est un homme de Dolbeau-Mistassini. Hier, il a comparu au Palais de justice de Québec pour une série d'infractions à caractère sexuel. Ça aurait été commis dans la région, entre autres, entre juillet et octobre dernier à Stoneham et Tewksbury.
OK.
Par contre, on veut des informations. Si vous en avez des informations sur Danny Savard Bonneau, 32 ans, cet homme de Dolbeau-Mistassini, rendu à Québec, qui doit répondre à deux chefs d'accusation de contacts sexuels et deux autres d'incitation à des contacts sexuels auprès de jeunes mineurs, on appelle la police. Si ça vous dit quelque chose, je répète son nom, Danny Savard Bonneau.
Donc, la police a très peu de choses entre les mains actuellement?
Je ne sais pas s'ils ont très peu de choses, mais ils demandent à avoir de l'information supplémentaire, si vous en avez. Oui.
OK.
Il y a une femme de Québec qui devra répondre aussi à des chefs d'accusation d'incitation à des contacts sexuels, de leurre et de production de pornographie juvénile. Elle s'appelle Mélanie Lévesque, 43 ans. Elle a été arrêtée hier par l'unité d'exploitation sexuelle sur des mineurs du SPVQ. Ce qu'on lui reproche, c'est les gestes que je vous ai énumérés qui seraient survenus entre 2015 et 2020 sur 5 ans sur une victime mineure et la dame se serait présentée là, à sa victime sous un faux nom. Donc, ça a brassé, comme on peut dire, au Palais de justice de Québec hier. Et puis, on n'a pas fini d'en entendre parler de ces deux cas-là, mais c'était la première fois que j'en entendais parler, je ne sais pas pour toi, là, mais ces deux individus-là, j'avais jamais eu d'informations sur ces arrestations-là ou encore ce qu'on leur reprochait.
Non, mais si j'avais voulu être cynique, je pourrais dire il y en a ben trop qui passent de toute façon pour qu'on les retienne toutes.
Ah, t'as raison, Pierre.
Excuse-moi, c'est plate un vendredi comme ça, mais c'est malheureusement vrai.
Hey, hier, on était en pleine émission, puis on disait, il y a quelque chose qui se passe là à Charlebourg, puis là, finalement, j'ai appelé les autorités, on me disait que c'était une saisie de cannabis. Quand même assez importante du côté de Charlebourg. Il y a un homme qui a été trahi par une surconsommation d'électricité. En gros, il y avait une consommation anormale d'électricité, puis il y a un résident qui a dit c'est une bonne idée de mettre ça dans le piton pour faire de la production de cannabis. Puis finalement, il s'est fait pogner. Et les agents, les enquêteurs du service de police de la Ville de Québec sont intervenus à 7 heures hier matin. C'est sur l'avenue de Laval, à l'intersection de la rue de Chartres. Alors, il y avait dans son sous-sol plusieurs sapins de Noël. Plusieurs sapins de Noël, OK? On les sortait là, à pocheter. Puis c'est une maison... Il a l'air de rien, là. Ça n'a pas l'air croche pantoute.
Mais c'est probablement la plus belle qualité pour une maison dans ce genre-là. Là, celle pour faire pousser du weed comme ça.
Oui. Mais c'est une énorme perquisition pour un quartier comme ça, résidentiel.
Combien
c'est pas
de
fréquent.
Est-ce qu'on a une quantité, excuse-moi?
Un chiffre exact.
Ou approximatif, ou pas pantoute aussi.
Non, ce que j'ai, moi, c'est vraiment c'est qu'il y en avait beaucoup de sapins de Noël.
OK.
OK. C'est ce que je peux te donner.
C'est bon.
Je peux aussi te dire que c'était une exploitation qui était destinée au marché noir. On s'entend dans une maison comme ça. Et il y a un deuxième homme qui serait relié à cette activité-là qui a été arrêté à Lac-Beauport.
Il y a encore du marché noir pour le pote?
Oui. Bien, un sous-sol rempli, ça me surprendrait que ce serait pour lui et ses amis.
Hey.
Un sous-sol rempli.
Mais la SQDC a quand même fait une progression là, avec ses prix rabaissés et tout ça. Mais tu sais, si vous pensiez que le marché noir de la marijuana n'était plus en fonction, détrompez-vous.
Hein? C'est Hydro-Québec finalement qui a regardé ça puis a dit.
Mais c'est souvent comme ça hein, d'ailleurs que ça se passe, c'est qu'on constate des consommations d'électricité qui sont vraiment démesurées, là, qui sont très 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 élevées. Et du côté d'Hydro-Québec en général, on va communiquer avec les services policiers pour ce genre de d'événement là. C'est intéressant quand même de savoir que ça peut se passer de cette façon là. Tu ne penses pas être trahi par ça,
non.
Mais au final, dans le fond, c'est tellement évident que si ta maison tire, je sais pas combien de kilowattheures pendant je sais pas combien de temps, puis que ton voisin est au 20e de ta consommation, je sais pas, le flag va lever, c'est sûr, à quelque part. Là.
C'est quelqu'un qui aime bien la chaleur, qui voudrait aller à Cancun, mais il peut pas, on est en pandémie.
Maudite pandémie.
Maudite affaire. Gouvernement Legault aussi qui a obtenu une copie du rapport du Bureau d'audience publique en environnement dans le dossier du tramway. Alors, c'est fait. Le BAP a été en mesure de respecter les délais prévus.
Bon.
Document qui va être rendu public d'ici au 20 novembre prochain. On aura des nouvelles en tant que public bien investi dans la cause. Histoire horrible de harcèlement et de violence dans une école primaire des Laurentides. Je t'en parle parce que ça s'est rendu à l'Assemblée nationale et c'est notre collègue à Montréal qui en a parlé pour la première fois. C'est une école de Rivière-Rouge qui refuse de changer un élève qui est martyrisé par un bully là, en raison du concept de bulle classe. On veut que les élèves...
Donc, dans sa bulle... C'est des kids de quel âge, ça?
C'est comme on dit, c'est une école primaire des Laurentides.
OK, fait que c'est en bas de 11 ans ou 11 ans et moins.
Oui.
Là. OK, donc dans une bulle classe, t'as un enfant qui est victime d'un autre enfant qui s'acharne sur lui, puis là, on refuse de... OK, parfait, je comprends bien.
Oui, parce que justement, on veut respecter les règles de la pandémie, mais là, ça se passe très, très mal. Il y a les parents qui s'en sont mêlés, il n'y a rien qui s'est passé. Et cet enfant-là vit encore chaque jour avec ses boulies et ça ne cesse pas nécessairement. Tu sais, c'est un enfant, là, ça réalise pas tout de suite le mal que ça peut faire à d'autres enfants et c'est ce qui se passe. Puis là,
surtout quand c'est mal géré à maison, excusez.
Oh, aussi. Puis là, on s'inquiète beaucoup de ce qui va arriver à cet enfant-là qui vit déjà quelque chose de complexe avec la pandémie comme tout le monde, mais en plus, qui se fait vraiment écœurer. Il y a le député libéral Enrico Ciccone qui a demandé à l'école de bouger ou au ministère de l'Éducation, Jean-François Roberge, d'intervenir. Il y a aussi la députée libérale Marois Risky qui a dit que c'était un calvaire et qui demandait vraiment au ministre de l'Éducation d'intervenir. Faut que cet enfant martyrisé-là soit sorti de cette classe bulle.
Bon, on peut quand même se garder une réserve. Là. On peut les comprendre, là. Ciccone et Mme Risky. Eux autres sont dans l'opposition, puis leur game, c'est de dire le contraire de ce que tout le gouvernement a fait. Ça, c'est correct. Faudra connaître éventuellement l'ampleur de la situation. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est dérangeant. C'est sûr que c'est dérangeant. D'un autre côté, c'est-tu normal qu'à l'Assemblée nationale, on rentre dans la micro-gestion d'une classe dans une école? Je sais pas. Peut-être que c'est peut-être symptomatique d'un problème plus général, du fait que les bulles classes sont trop rigides. Je sais pas, je pense à voix haute, là, Pascal, pendant qu'on se parle comme ça, mais je sais pas à quel point c'était de notoriété de l'Assemblée nationale vraiment. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. Je pense à voix haute.
Il y a aussi, je termine là-dessus, Macron, le président Macron et le premier ministre Justin Trudeau qui se sont parlé au téléphone. Pourquoi? Parce que...
Parce que Justin Trudeau voulait. C'est ça qui est arrivé pareil.
Tu sais, toute l'épopée des caricatures de Mahomet, du professeur décapité, du fait qu'on souhaite qu'il y ait une liberté d'expression dans cette presse-là du côté de la France, ça fait beaucoup parler. Puis Justin Trudeau s'est prononcé là-dessus la semaine passée. Ça n'a pas fait l'affaire d'Emmanuel Macron. Et ils se sont parlé parler hier pour essayer de d'avoir une entente entre eux, là, mais il a vraiment été froissé, en fait, des propos de Justin Trudeau, Emmanuel Macron. En gros, ben Justin Trudeau, tu sais, il a pas pris une position qui faisait en sorte que on demandait une liberté d'expression et on condamnait ce qui se passait du côté de la France. En très gros résumé, là, je peux vous l'expliquer comme ça.
OK. C'est sûr que ça faisait contraste avec la position de François Legault, qui, lui, ben, à chaque fois que je vous l'explique, là, à chaque fois qu'il a l'occasion de s'opposer à ce que Justin Trudeau dit, il saute à pieds joints sur cette occasion.
Ce temps-ci, c'est le cas. Hein?
Ouais. Ben, écoute, ça fait, c'est depuis un an, là, c'est flagrant, Pascal. Puis on a mis le doigt hier sur les deux raisons. Le sous-financement du système de santé par le fédéral. Puis l'autre, ben, c'est la loi 21 que Justin Trudeau n'a pas voulu appuyer. C'est clair que c'est ça. Depuis quelques jours, on l'a bien senti.
On le sent, ça sent fort. Mais... Sûrement comme le pote dans la maison à Charlebourg.
Ben, c'est, ouais, c'est ça. Merci, Pascal.
Salut, ici Steph Dupont. J'essaie une recette de tofu, puis je m'en viens. Je vais être là vers 6h, 6h et quelques. Puis en attendant, c'est Pierre Blais qui est là pour le 5h. Fait que Pierre, force-toi donc un peu.
Marie-Pierre, dévastée, vient de découvrir une masse à son sein droit. Une mammographie s'impose.
Pas de temps à perdre, ça me stresse.
Monique, elle, ne veut pas dire son âge.
C'est indiscret.
Mais est aux prises avec l'ostéoporose. Elle a choisi Clinix pour ses examens de suivi.
Clinix, c'est avant tout une équipe de professionnels à votre écoute. Un environnement sécuritaire et des rendez-vous rapides. Trois cliniques, La Cité, Leménil, Val-Bélair. Un seul numéro, 653-9933. Cliniximagerie.com.
Clinix, votre santé nous tient à cœur.
Que diriez-vous de payer votre panier d'épicerie jusqu'à 30% moins cher? C'est ça le grossiste Le Frigo. Une épicerie regroupant boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromage et charcuterie. La fameuse tourtière du lac Saint-Jean, les gibiers farcis, la thym fraîche de grain, les huîtres et le foie gras. Toujours à un meilleur prix qu'ailleurs. Par exemple, cette semaine, découvrez nos nouvelles tourtes maison à seulement 12,99 $ et le filet mignon entier à seulement 9,99 $ la livre. Derrière le centre Vidéotron, à deux pas du Grand Marché, grossiste Le Frigo. Meilleur goût, meilleur coût. Vous demandez des sushis? On vous répond Niki Sushi. Essayez le tout nouveau forfait Zone Rouge chez Niki Sushi. Commande en ligne ou par téléphone. Livraison disponible sur DoorDash et Uber Eats. Niki Sushi, Limoilou et Loretteville, nikisushi.com.
Comme nos fromages, on peut être pas de ferme.
5 minutes pour double échec.
Pas de semi-ferme.
2 minutes pour double échec.
Ou pas de molle.
Il dit qu'il n'a pas fait exprès. On continue.
Plein de pâtes d'ici, plein de fromages d'ici. Comme nos fromages, on peut être pas de molle.
Ton cabanon empiète sur mon terrain, hein?
Pas de semi-ferme.
Ton cabanon empiète sur mon terrain. Tasse-le.
Ou pas de ferme.
Ton cabanon empiète sur mon terrain. Fait qu'il est à moi.
Plein de pâtes d'ici. Plein de fromage d'ici.
Voici une histoire vraie. Amélie et Cédric font de bons revenus et sont propriétaires de leur maison. Mais suite à de mauvais placements, naissance de deux enfants et surutilisation des cartes de crédit, ils se retrouvent avec 50 000 $ de dettes. La tension monte. Ils pensent même à se séparer. Mais ils ont consulté Jean Lelièvre, syndic, autorisé en insolvabilité. Ça leur a coûté 250 $ par mois pendant 60 mois. Et maintenant, fini les nuits blanches et leur couple est uni plus que jamais. Faites comme Amélie et Cédric. Visitez jeanlelièvresyndic.com.
93.
Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, des poumons ou des reins, et que la grippe vous agrippe, dites-vous qu'elle ne vous lâchera pas et qu'elle pourrait avoir pour vous de graves conséquences. Ne vous laissez donc pas, vous et votre entourage, agripper par la grippe. Faites-vous vacciner, parce que la vaccination est votre meilleure protection contre les complications de la grippe. Pour en savoir plus, visitez le québec.ca/vaccin-grippe. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, moi c'est Henri, et je prends de l'insuline pour traiter mon diabète de type 2. Je croyais que la transpiration abondante et le fait de me sentir faible et irrité résultaient simplement de mon traitement, mais j'avoue que ça commençait à être pénible au quotidien. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit que ma glycémie était trop basse. On a décidé ensemble de rajuster mon traitement à l'insuline pour tenter d'améliorer la situation. Si vous prenez de l'insuline et présentez des symptômes semblables, passez à l'action. Ça vaut la peine de consulter un professionnel de la santé et de visiter hippoinfo.ca pour en savoir davantage.
Avec une motoneige Polaris, l'hiver va être juste fou. Chez RPM Rive-Sud, on vous offre le choix entre des rabais allant jusqu'à 2 000 $ ou des taux de 0% sur 48 mois sur certains modèles Polaris 2019-2020. Passez-nous voir chez RPM Rive-Sud à Lévis.
Au FM 93, vous écoutez le 5 heures avec Pierre Blais.
Y a-t-il quelqu'un qui veut parler à Jean Brière?
Y a-t-il quelqu'un ici qui veut parler à Jean Brière?
Non. Quand le train passe, puis qu'il te fascine, t'as pas juste y envoyer la main.
saute dans le train.
C'est ça, Gus. Laisse-moi parler tout seul.
Alors, Ray, tu le goût de parler à Jean Brière?
Je connais pas Jean Brière.
Ah, OK, c'est ça l'affaire. C'est un excellent journaliste.
OK.
Montréalais. Dans le secteur du poste 31, okay. Nous dit-on. Et il est tout le temps au poste de police.
Un gossement.
Ben, écoute, il en sait des affaires.
Ah oui.
La police pisse dans l'oreille une fois de temps en temps.
Ah.
On en prend des comme ça. Comment ça va ce matin?
Très bien, merci.
Good. System of a Down qui sort deux nouvelles chansons pour financer la lutte à la guerre dans leur partie du monde, en Arménie et tout ça. Là. Mais deux nouvelles chansons de System of a Down ce matin.
Bravo.
C'est à se pitcher la tête dans les murs.
Oui.
On les fera écouter peut-être tout à l'heure avec Stéphane.
C'est bon, avec Stéphane.
Stéphane.
Oui. La semaine numéro 9 dans la NFL a débuté hier avec, sans trop de surprise, une victoire des Packers de Green Bay contre les 49ers à Santa Clara en Californie. Les Niners, privés de 8 réguliers, n'ont pas fait le poids contre un club qui peut aspirer à de belles choses, les Packers. 34-17, la marque finale. 4 autres passes de toucher pour l'excellent Aaron Rodgers chez les Packers. Ça lui en fait 24 cette saison. Donc, Green Bay arrive à la mi-saison avec 6 victoires et 2 revers et les Niners tombent sous la barre des 500. La deuxième moitié de saison pour San Francisco devrait être très difficile.
Ça va mal pour Steve Young ces temps-ci.
Oui, Steve Young a beaucoup de problèmes.
Ouais.
Bonne analyse quand même. Fait du bon travail.
Avez-vous d'autres questions sur le football?
Ben oui.
Je les prends là.
Et voilà. Plusieurs matchs à surveiller au cours du week-end. C'est une belle fin de semaine de football.
Ouais.
Dimanche soir, les Saints contre les Buccaneers, ça m'apparaît match à regarder en fin de semaine si vous pouvez n'en regarder qu'un seul.
C'est celui de 20h, ça, dimanche, ça veut
oui,
dire?
Oui, 20h20, okay. Exactement. Cool. Tom Brady contre Drew Brees, ce sont les deux carrières ayant lancé le plus de passes de toucher dans l'histoire de la NFL. Également, les Steelers, la seule équipe toujours invaincue qui s'en va à Dallas. Ça devrait être a walk in the park pour les Steelers qui arriveront donc à la mi-saison avec une fiche parfaite de 8 victoires en autant de matchs. Et il y a 3 ou 4 autres affrontements qui impliquent des clubs avec des fiches gagnantes. Donc, une très belle fin de semaine numéro 9 dans la NFL. Pour ce qui est des Raiders d'Oakland, ce sont les méchants garnements. Ils retardent le groupe un peu concernant la COVID-19 et la NFL.
Ils
bottent
pas du bon bord, eux autres.
Non, la NFL a dû sévir plus sévèrement envers les Raiders parce qu'ils sont des récidivistes versus le protocole qui a été établi, un protocole très strict qui fait que la NFL est quand même capable de passer à travers la saison jusqu'ici.
Mm-hmm.
Sans trop de heurts. On a reporté quelques matchs, mais jusqu'ici, on réussit à les présenter, les matchs. Mais les Raiders ont enfreint le protocole établi, ce qui fait qu'on les a mis à l'amende un peu plus, 650 000 $ d'amende pour l'équipe, 150 000 $ pour l'entraîneur, John Gruden, qui est visé pas mal par les sanctions de la NFL. Et on enlève également un choix de repêchage aux Raiders. Ça, c'est quand même très sévère, parce que là, on enlève dans le futur de l'équipe la possibilité que l'on donne à toutes les équipes, c'est-à-dire le repêchage,
mm-hmm.
Qui fait qu'on égalise le plateau. On donne la chance à tout le monde de repêcher. Ben là, on décide quand même d'enlever un choix aux Raiders. C'est concernant le cas de Trent Brown, un joueur de ligne à l'attaque, qui lui-même n'a pas respecté le protocole, mais c'est l'équipe en entier qui est visée par les sanctions de la NFL et c'est très, très sévère. Puis si on comprend pas, ben il va y en avoir d'autres, des sanctions envers les Raiders. C'est plate quand la majorité de la Ligue, je pense, fait des efforts, des sacrifices.
C'est évident, d'ailleurs.
Tu vois
même.
Des gens comme ouais. ça qui ne suivent pas la parade.
Mais lui, on va lui demander, là, faut que tu trouves un de tes chums du secondaire qui n'a pas été drafté, puis il remplace notre 6e choix qu'on vient de perdre. Faut que tu nous trouves un joueur.
Oui, puis 650 000 $.
Il y a ça.
By the way.
Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, t'expliques ça à des enfants, tu te dis, garde, là, nous autres, on est ici, mais le but de l'autre bord, là, il est là-bas. Là.
Ouais.
Puis là, l'enfant, il part du mauvais bord avec le puck, puis il score dans son goal.
Et voilà.
Mais c'est un enfant.
C'est comme ça.
Il y a une excuse.
Oui. Ryan Strome a évité l'arbitrage avec les Rangers de New York hier. Oui, ils se sont entendus sur un contrat de 2 ans, 9 millions de $. Strome qui devait passer hier devant l'arbitre pour statuer sur son contrat de la prochaine saison. C'est à quelques heures de la séance d'arbitrage que l'on a fini par s'entendre pour ce qui est de Strome. Il y a quelques cas là, qui restent à passer devant l'arbitre peut-être. Sinon, c'est très rare là, qu'on se rend devant l'arbitre. mais c'est comme le dernier recours, puis on essaie de mettre de la pression jusqu'à la fin pour les négociations de contrat. Au tennis, Milos Raonic est en action aujourd'hui en ronde quart de finale contre le Français Hugo Humbert. Autour de 10 heures pour le Canadien qui connaît un bon tournoi au Masters Mill de Paris. Toujours en tennis, Félix Auger-Aliassime lui a décidé de se séparer de son entraîneur Guillaume Marx. C'est pas exceptionnel dans le monde du tennis. D'ailleurs, ce qui est plus rare, c'est de faire aussi longtemps avec un entraîneur que Félix Auger-Aliassime a fait avec Guillaume Marx. Ça fait plus de 6 ans qu'ils sont ensemble. Ça arrive très régulièrement que les joueurs et joueuses de tennis changent d'entraîneur au cours d'une carrière, quelquefois. Plus ta carrière est longue, plus tu vas changer d'entraîneur. Donc, ce n'est pas exceptionnel, la situation de Félix Auger-Aliassime. D'ailleurs, il a dit hier, on se quitte dans le respect et en très bon terme. Bon. C'est juste qu'on... Félix Auger-Aliassime a probablement besoin d'entendre une autre voix là, pour essayer de l'amener à un niveau supérieur. Il a quand même grimpé parmi les 20 meilleures raquettes au monde en compagnie de Guillaume Marx.
De toute façon, je veux dire, on regarde ça comme on veut. Là, à part les joueurs des Pats dans les dernières années, là, où ils changent de coach, les joueurs, très dans souvent. Une carrière, un 4, 5, 6 oui. fois, peu importe le sport. Là, fait que, tu sais, c'est pas anormal. Puis l'usure, hein, probablement l'usure.
Certainement l'usure.
Okay.
Et beaucoup de courses automobiles. En fait, la série NASCAR, c'est la fin de la saison à Phoenix, Arizona, en fin de semaine.
Merci beaucoup, M. Ray.
OK, bye-bye.